Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Marc Louzada, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque, alors que j'ai adoré, excusez ma rude franchise Jean-Marc.
C'est gentil.
Au cinéma ce soir pour le label La Dolce Volta, ça fait longtemps qu'on connaît votre amour pour le cinéma, bien sûr, bon... Vous êtes un des pianistes importants qu'on adore, mais il y a aussi cette passion dévorante pour le cinéma qu'en général on évoque hors micro. Et là, vous avez laissé cette passion déborder pour rendre à la fois un hommage au cinéma, un hommage à cette passion, un hommage à vos parents. C'est très important.
Ah oui, alors c'est vrai, cet enregistrement, c'est quelque chose de spécial pour moi. Ça me tient très à cœur. Tout d'abord, oui, c'est vrai que ça a débordé. Ma passion pour le cinéma, là, a pris un cran, c'est monté d'un cran, si je peux dire. Je pense, parce que pour moi, le cinéma, j'adore, je le dis, pleurer au cinéma. Et parce que ce n'est pas une thérapie, mais ça me fait du bien de pouvoir pleurer tranquillement, ou devant son poste de télévision, ou dans une salle une grande salle, pour pouvoir assumer tous les chagrins de la vie. Et le cinéma est un exutoire parfait pour cela, si j'ose dire.
Oui, mais alors vous avez choisi des films. Alors,
il y a des films dramatiques.
Oui, il y a des films dramatiques, mais il y a aussi, par exemple, L'Arnaque.
C'est un souvenir tout à fait particulier, L'Arnaque, pour moi. C'est le dernier film que j'ai vu avec mes parents ensemble. Mes parents ont divorcé après. On l'a vu en été, je me souviens très très bien, à Menton, en version française. Moi, je l'avais vu avec... j'avais vu tout seul avec mes copains à l'école Menuhin quand je vivais
en
Angleterre. Et en arrivant en France, j'avais amené mes parents voir ce film. Et en fait, mes parents ont divorcé juste après. Donc, nous n'avons jamais plus vu un film tous les trois.
Oui, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un côté dramatique dans votre souvenir.
Voilà, c'est un côté
aussi
très nostalgique. Oui. Et j'ai choisi Soleil, qui est une beauté de nostalgie
de
Scott Joplin. Dans le film, on y voit Redford qui est tout seul la nuit. Il cherche à avoir une nuit chaude avec une inconnue. L'inconnue, c'est une serveuse de bar. Et finalement, il entre chez elle, il passe une nuit. Au petit matin, quand il se réveille, elle est déjà partie. Et puis là, on entend toujours Soleil. Et puis il descend dans la rue. Il va dans une sorte de petite rue, comme un cul-de-sac. Et il voit arriver la serveuse qui vient droit devant lui, prête pour le tuer. Et cette femme est tuée. On s'aperçoit que c'était une tueuse et qu'elle était là pour le tuer. Donc, c'est assez impressionnant.
Donc, oui, dans un film avec un ton quand même assez...
Très drôle, oui. Mais le film est à plein de nostalgie, je trouvais. Surtout plein c'est une peinture de l'Amérique
la prohibition.
Oui, et qui meurt de faim aussi.
Oui, oui. Mm. Alors, votre disque, enfin, de toute façon, c'est tellement vaste, toutes les questions que j'aimerais vous poser, Jean-Marc Louzada. Il s'ouvre par un thème de Nino Rota, de la Dolce Vita. Nino Rota, on va le retrouver à une autre reprise dans ce disque.
C'est un petit clin d'œil à la Dolce Volta. J'ai tenu à faire des remerciements à Michael Adam qui m'a permis d'enregistrer cet album. Mais ça tombait très bien. La Dolce Vita, c'est un film que j'ai vu tout d'abord à la télévision. Je me souviens très très bien, j'étais petit, au dossier de l'écran, l'émission d'Armand Jameau.
Oui.
Et je l'ai vu avec mes parents. Je sais que le film était interdit aux moins de 18 ans Et je l'avais vu j'avais 14 ans, puisque je venais en vacances lorsque je vivais en Angleterre, je vivais à la Menuhin School. Eh bien, je suis venu en vacances, j'ai vu la Dolce Vita. J'ai eu un choc émotionnel incroyable. Et c'était un film que ma mère et que mon père aimaient passionnément, qu'ils avaient vu en Tunisie. Et j'ai été surtout impressionné par Alain Cuny.
Oui, c'est terrible ce qui lui
Steiner,
arrive à Alain Cuny.
terrible.
Il
Et en
tue ses
fait,
enfants, il se
voilà,
suicide.
pour moi, Alain Cuny, déjà, il était. Alors, on
C'est
peut
un des
pas.
fils rouges de Bodice, qu'on le retrouve dans Les
On
Amants
le retrouve dans
aussi.
Les Amants. Dans Les Amants, il écoute désespérément le sextuor de Brahms pour oublier qu'il est trompé ouvertement par son épouse. Il essaye de se calmer avec la musique de Brahms, surtout une musique juvénile et pleine de verve et de sensualité. Mais dans le film de la Dolce Vita, il rencontre Marcello Mastroianni
Dans une soirée.
devant une église, devant
Ah,
une
pardon.
église. D'abord, et on s'aperçoit, on comprend que Alain Cuny est une sorte de père spirituel de Marcello, qui est complètement en pleine décadence, en train de s'amuser, de ne plus bosser, il trompe la femme qu'il aime. Et là, c'est un moment de calme. Il lui dit, viens, je vais te jouer de l'orgue. Et il voit un curé et il lui dit, est-ce qu'on peut monter? Je peux jouer de l'orgue? Et le curé accepte. Et j'avais jamais fait attention parce que j'ai revu le film dernièrement. Ça m'a profondément choqué. Il regarde d'une manière assez ironique Marcello et il lui dit, tu vois, ils acceptent, même le diable. Ils acceptent de m'avoir là. Et on apprend après 2 jours plus tard après une soirée assez macabre chez lui, où tous les intellectuels sont des intellectuels qui nous font frémir. Moi, j'ai d'ailleurs souvent assisté à des soirées intellectuelles comme cela. On a juste envie d'abandonner, de ne plus être un artiste et de mourir quelque part, de ne plus être artiste. Quand on entend les bêtises, les sornettes qui sont dites dans des soirées mondaines. Et là, c'est assez spécial ce qui se passe dans cette soirée. Et Steiner, il s'appelle Steiner dans le film, Alain Cuny, lui montre ses enfants qui vont dormir et il leur met une petite couverture sur leur berceau comme si c'était un linceul. On est déjà assez effrayé et on apprend que 2 jours plus tard, il va les assassiner et il va se tirer une balle dans la tête. Moi, c'est une scène. Ces trois scènes m'ont toujours bien plus impressionné que Marcello Come Here
Van
d'Anita
Tegberg,
Ekberg, The
avec la
Plantureuse,
fontaine de Trévi.
mais qui est tout est fabuleux. La musique est géniale, la musique qui est en fait une copie, mais de génie, de l'opéra de Katsu, de
Ah, j'ai
la.
jamais pensé ça, Jean-Marc, je
Mais
l'adore.
oui, et en fait, bon, ça je l'ai lu, hein. Je l'ai lu. Je l'ai lu en sachant que Nino Rota, voilà, avait été convoqué par Fellini pendant le tournage. Et Fellini lui dit, voilà, regarde, j'écoute nuit et jour, et jour et nuit, l'opéra de Katsu, la romance de Mack de Surinner, Mackie de Surinner. Est-ce que tu peux me faire quelque chose dans le même genre? Et vraiment, il a fait pas dans le même genre, il a fait beaucoup plus beau. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus obsédant est beaucoup plus universelle. Maintenant, on trouve la Dolce Vita de Fellini partout, même dans des publicités pour des voitures, avec des grandes stars hollywoodiennes qui conduisent ces voitures. Mais bon, l'opéra de Katsu est magnifique. Mais bon, le thème de la Dolce Vita est quelque chose pour moi qui me déchire le cœur.
Alors, vous parliez, Jean-Marc Louzada, des amants.
Alors,
Vous interprétez le thème et variations donc au
oui,
piano.
alors c'est le thème et variations
du
du
sextuor.
Sextuor qui a été transcrit par
Par Brahms lui-même.
Brahms lui-même. C'est une des œuvres les plus belles, que rarement jouées
Tout
finalement.
à fait.
Elles sont difficiles. Il faut toujours être en extension. On s'aperçoit que Brahms avait des mains gigantesques. Et alors, c'est un film que j'ai vu parler.
Excusez-moi de vous interrompre, moi j'ai cru quand vous avez
Oui.
choisi la musique de ce film que c'était en hommage à Jeanne Moreau dont vous avez été proche,
Ah,
avec qui vous aviez enregistré l'histoire de
l'histoire
Baba
de
de
Babar.
Francis Poulenc. Et en fait, vous m'avez dit hors micro que non, c'était un hommage à votre mère.
Oui, c'est un hommage à ma maman. Lorsque j'étais à la Menuhin School, là où je n'étais vraiment pas heureux du tout, j'étais très seul. J'avais 13 ans. J'avais l'air d'en avoir 10. Ma mère avait décidé de m'écrire des lettres tous
Tous
les
les jours.
jours. Elle m'écrivait 3 lettres par jour. Donc, je recevais une lettre le matin et une lettre au courrier du soir. Et elle a fait ça pendant peut-être les 4 premiers mois, juste pour que je puisse ne pas être désespéré au milieu des Anglais. Et
On dirait du Romain Gary, ce que vous racontez,
ah, c'est
Jean-Marc
la
Louzada.
promesse de l'aube. Mais la promesse de l'aube, c'est pour ça que ma mère adorait la promesse de l'aube, et moi aussi. Quel roman fabuleux.
Excusez mes détours,
Et
mais il y a tellement de
quel
sujets que vous
film
évoquez.
fabuleux avec Mélina Mercouri.
Oui, tout à fait.
Hein? Voilà.
C'est moi
Donc
qui vous
elle.
obligeais à vous interrompre, je
Oui,
suis
non,
désolé.
non, non, vous avez très bien fait. Lorsque j'étais à la Menuhin School, elle m'a raconté les films dans ses lettres, les films qu'elle voyait. Et elle avait vu Les Amants, elle me racontait tout. Elle m'a notamment aussi Rendez-vous à Bray. Et ces deux films, je les ai découverts quand je suis venu habiter à Paris. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, je les ai vus au cinéma. Et la Dolce Vita, j'ai attendu 18 ans pour les voir. Sur grand écran, et pour voir la Dolce Vita, c'était quelque chose c'est un grand choc émotionnel. Pour moi, je pense, c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie avec Maura Venise. Je pense que j'ai dû les bien le voir plus de 100 fois. Les deux
Ah
fois.
oui. Donc vous avez choisi un film de 3 heures et un film de 2 heures, 2 heures et demie,
Voilà,
multiplié
voilà.
par 100, vous
Mais
avez consacré
ce
beaucoup
sont
de
des
temps.
films que je peux appeler des films de chevet. Comme
Comme des livres de chevet.
des livres de chevet. Voilà, mon livre de chevet, c'est La peau de chagrin de Balzac. Et je trouve
Ah, c'est
que.
très étonnant. Moi, j'adore ce livre, mais c'est quand même un Balzac très particulier. On est
Très
dans le monde
pas.
fantastique, on n'est pas dans le Balzac
Oui, et bien pour
réaliste.
moi, il est proche de la Dolce Vita. Je ne
Ah
peux
oui.
pas
Ah,
penser.
j'adore vos alliances.
Je pense immédiatement à la Dolce Vita quand je lis. Ou non, je pense à la peau de
Peau de
chagrin
chagrin.
quand je vois la Dolce Vita. Je trouve qu'il est très proche de Raphaël de Valentin,
Mastroianni, le
Marcello.
rôle de
Oui,
Mastroianni.
oui. Et puis surtout sur l'immobilisme. Sur la vieillesse, on ne peut, en fait, toute cette société ne peut plus vivre, ne peut plus, ils sont immobiles, ils ne peuvent plus rien faire. À la fin, surtout, à la fin sur la plage, il y a ceux qui la seule personne qui les regarde, il y a une personne qui est morte, c'est un animal, c'est le monstre, le pauvre, qui est là, qui les regarde, désespérant, en se disant, mais qu'est-ce que vous faites là, mes pauvres malheureux? Et il y a la petite qui est d'une pureté incroyable, qui est la petite serveuse, et qui essaye de parler, mais on entend le bruit des vagues de la mer tellement fort qu'on ne peut même plus. Il y a une incommunicabilité. Incroyable. Moi, je suis fasciné par la Dolce Vita. J'aime Fellini plus que tous les réalisateurs, mais la Dolce Vita, c'est un coup de génie.
En même temps, Jean-Marc Lousada, dans le texte délicieux et passionnant qui accompagne ce disque au cinéma ce soir, c'est titre que vous empruntez bien évidemment à l'émission culte qu'on regardait.
Alors, c'était ben, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte. On attendait, quand on est. Moi, on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, on attendait l'émission d'Armand Panigel au cinéma ce soir. Alors, une petite parenthèse, j'ouvre. Armand Panigel était le mari de la violoniste Michèle Auclair.
Ah oui, c'est vrai.
Et Michèle Auclair, grande violoniste, qui était la grande copine de Geneviève Joie, qui était mon prof de musique de chambre au CNSM, et qui était l'épouse d'Henri Dutilleux. Voilà. Et Michèle Auclair me disait, mais il y a des bobines de films partout. Tout dans la salle de bain, on peut même plus marcher, il y a des films partout. Mais enfin, voilà, pour moi, Armand Panigel, c'est sa voix qui était... on pouvait la reconnaître.
Mais parce qu'il faisait la tribune des critiques de disques.
Il faisait la tribune
des critiques. C'est comme vous, musique et cinéma.
voilà. Mais je l'ai, hélas, jamais rencontré, Armand Panigel. Et quel homme extraordinaire. Et alors, on attendait... On était provinciaux, on habitait dans le sud de la France, et on était devant le poste. Il y avait le vendredi, je crois, au théâtre ce soir, et je ne sais plus si c'était le mercredi ou le jeudi, il y avait au cinéma ce soir, avec un générique que j'adorais.
Oui, Arletty, tout le monde.
Voilà.
Michel Simon.
Et en fait, on voyait des. C'était une. Il y avait deux séances, si je ne me trompe pas. Il y avait un film, il y avait la publicité, les chocolats de l'entracte, les petits esquimaux, et puis il y avait l'interview. Je me souviens une fois qu'il avait interviewé, qu'Armand Panigel avait interviewé Marie Belle, je crois. Il avait présenté un carnet de bal qui est l'une des plus belles merveilles du monde du cinématographique. Je peux voir et revoir, et même j'aurais voulu sur le disque pouvoir mettre la valse du carnet de bal, mais c'est impossible parce qu'il a utilisé un procédé étonnant qu'uniquement David Lynch après a pu se servir bien des années. Il prend une valse, il l'enregistre et il la met à l'envers. Et on a une sorte de valse lente qui vous prend aux tripes avec des sons à l'envers. Et une valse noire, une valse complètement macabre.
De toute façon, le film est noir, parce que c'est cette femme, Marie-Belle, qui retrouve son carnet de bal et qui retrouve tous les hommes.
Et Marie-Belle parle. Oui, mais Marie-Belle parle, elle raconte. Et aussi, je me souviens, elle parle, elle défend. Qui a fait
Julien Duvivier.
C'est Julien Duvivier. Ouais. Elle défend Julien Duvivier, qui était détesté par toutes
les cahiers du cinéma.
Voilà. Et elle le défend. Et après, on avait le deuxième film. Par exemple, je ne me souviens plus, mais il y avait Pépé le Moko. Et moi, Pépé le Moko, c'est un souvenir direct, mais qui m'a été raconté par mes parents. Parce que lorsque nous sommes partis de Tunisie au moment des événements...
En 67
on est parti en 61, 62. Je crois que la guerre d'Algérie n'était pas terminée. C'était la guerre de Bizerte.
J'ai pensé que vous étiez parti justement comme beaucoup de Tunisiens en 67 après la guerre des six jours.
Non. On est parti bien avant et on a pris le Ville d'Oran. Et je me souviens, c'est le seul souvenir de mes toutes jeunes années d'avoir monté la passerelle et mes parents me tenaient en laisse. Parce que les enfants étaient en laisse
à l'époque.
Hein. Et j'ai été malade tout le voyage. Je suis resté avec ma mère dans la cabine au lieu de profiter du restaurant du Ville d'Oran. Mais après, quand j'avais 11 ans et quand j'ai découvert le Pépé le Moko et le bateau tellement sublime qui nous fait chialer à la fin, quand Mireille Ballard. Oui, il se suicide devant le ville d'Oran et Mireille Ballin est assourdie par la sirène du bateau. Mais ce sont voilà. Chaque fois que je pense aux villes d'Oran, je me suis dit quand même, j'y étais dessus.
Mais enfin, quand même, Jean-Marc Louisada, vous nous parlez de films quand même où la tragédie n'est jamais absente. Vous choisissez un film, c'est Carnet de bal. Vous nous parlez de Pépé le Moko.
Mais voilà. Mais moi, je trouve que voilà, je n'aime que les grands films tragiques. Bon, s'il y a des films comiques.
J'aime bien de temps en temps quand même regarder une bonne comédie.
Ben, j'aime bien La Grande Vadrouille. Ah ben, La Grande Vadrouille, je peux la voir matin, midi et soir, toujours. Et Oscar aussi, d'Edouard Molinaro. Mais bon, ce sont des films aujourd'hui peut-être un peu déçus. Et les jeunes, peut-être.
Ah non, ils ont toujours autant de succès.
J'espère, je l'espère. Suis... Et même Rabbi Jacob, que j'adore. Mais les films qui me font pleurer, j'adore, voilà, Les Lumières de la Ville, ça mélange. On rit merveilleusement bien, mais on est subjugué par la perfection émotionnelle.
Alors, on parlait de la musique des amants, la musique de...
Alors, les amants...
Alors, excusez-moi, c'est de Brahms, et vous dites dans le texte que c'est la première fois que vous interprétez Brahms au disque.
C'est cela.
Ça, je ne m'en souvenais pas.
C'est vrai, je n'ai jamais enregistré. Tout
ce que vous avez enregistré.
Je n'ai jamais enregistré de Brahms. Et c'est une musique que j'aime, qui me bouleverse autant que Schubert. Et j'espère peut-être pouvoir en faire un petit peu plus dans les années qui suivent, si on continue à faire des disques.
Oui, c'est ce label à Dolce Volta dit des disques magnifiques, des très beaux objets de surcroît, puisque votre dernier enregistrement était consacré à Schubert.
La sonate à saint en si bémol, oui.
Oui, encore, et c'est le dernier Schubert. Oui. On est toujours dans la tragédie quand même.
Voilà, mais écoutez, la vie, je ne sais pas si la vie est une tragédie, mais enfin, je peux dire souvent que le cinéma, c'est la musique de ma vie.
Et alors, vous avez choisi un film alors, auquel on ne pense pas forcément quand on pense à musique de film, c'est Le Vent de la Plaine, parce que vous interprétez la fantaisie en ré mineur de Mozart qu'on entend.
Alors, c'est un western que nous sommes allés voir avec mes parents quand on était à Alès. Bon, entre nous, ce n'est pas le meilleur film de John Huston. Hein.
Malgré la présence d'Audrey Hepburn et de Burt Lancaster.
Burt Lancaster qui était, qui allait l'année suivante devenir un prince Salina viscontien de Lampedusa.
Nino Rota.
Voilà. Mais le film est un film extrêmement cruel sur le racisme.
Oui, parce que Audrey Hepburn joue le rôle d'une métisse.
D'une métisse, indienne. Et Burt Lancaster fait un cadeau à sa mère, qui est Liliane Gish, enfin sa mère adoptive, puisqu'il est amoureux quand même de sa sœur, qui n'est pas sa sœur. Et il lui fait un cadeau en plein désert, quasiment au milieu des cactus, d'un piano forte. Et elle s'assoit proche de la maison, dans le désert, et elle joue la partie en ré majeur de la fantaisie. Elle la joue assez lente, mais elle est en extase. Et ça me... ça m'avait extrêmement touché, probablement parce que c'était une pièce que je jouais quand j'étais petit. Après, c'est une pièce que j'ai retravaillée et les difficultés sont arrivées. Parce que Mozart, tant qu'on est petit, tout va bien. Et dès qu'on est devenu adulte, c'est fini. Il faut essayer de
retrouver la grâce.
Retrouver l'innocence de l'enfance. Mais ça, et on peut passer des heures et des heures et des mois sans jamais le retrouver.
Alors, on parlait des amants, on parlait de Jeanne Moreau, dont vous avez été proche, avec laquelle vous avez travaillé.
Oui, elle m'a beaucoup apporté sur l'enregistrement de Baba, parce que nous nous sommes vus souvent. Elle venait chez moi, à Paris, elle me dit « on regarde un Hitchcock », et je me souviens, on avait regardé « La mort aux trousses », et elle me faisait des arrêts sur l'image en me disant « regarde à quel point le cadrage est extraordinaire. Il place les personnages dans le cadre avec le fond. Il y avait un paysage, il y avait la mer au loin, et tout cela comme un tableau contemporain. Et elle m'a appris à regarder les films d'une autre manière. Et puis, elle m'a appris à me comporter dans la vie par rapport à la difficulté de ce métier et d'une manière plus volontaire. Elle me disait, il faut que les gens comprennent que ce que tu fais, c'est toi. C'est toi, c'est tu dois absolument imposer ce que tu dois faire. Et alors, je me souviens, on avait été très critiqués tous les deux au moment de la sortie du disque, parce que nous
L'histoire
avions,
de Babar de Francis Poulenc.
voilà, mais qui était, il y avait un complément, il y avait les sports et divertissements d'Éric Satie, et il y avait quelques pièces de Satie. Il y avait notamment les Gnossiennes, et il y avait une gymnopédie. La gymnopédie avait été jouée en solo, mais on avait eu notre idée, à tous les deux, de mettre le texte de surréaliste, un petit peu étrange, un peu bizarre, un peu choquant des fois, sur les notes de Satie. Et l'éditeur a toujours dit, l'éditeur, mais on n'a jamais su si c'était Satie qui avait demandé ou pas, qu'il ne fallait peut-être pas jouer, qu'il fallait juste dire le texte d'un coup et après
Jouer la musique.
jouer la musique. Mais ça ne correspond, je trouve qu'il y a eu une grave erreur peut-être de Satie, et elle a répondu dans une conférence de presse. Il y avait un journaliste qui était assez pointilleux et un petit peu agressif. Elle a, en une seconde, elle lui a répondu. Ils n'avaient plus quoi faire, plus quoi dire. C'était extraordinaire. Elle m'a dit après, voilà, il faut être comme ça. Quand on défend un projet, il faut savoir, même si on dépasse les
Il faut aller
limites,
jusqu'au bout.
il faut aller jusqu'au bout. Et c'est toujours, et c'est ça.
C'est une belle leçon.
Et ça, je peux dire aussi, je prends un petit hommage à mon ami Alexandre Tarot.
Donc vous jouez la transcription de l'Adagietto, la
Ah,
cinquième
voilà,
de Mahler.
de l'Adagietto. Il a fait une transcription qui est plus. Il appelle ça une adaptation. Je trouve ça très plus joli. Qui est une véritable paraphrase. Il fait quelque chose comme l'a fait Liszt avec La mort d'Isolde. Il y a un travail de couleur, de timbre absolument incroyable. Et lui, après, quand il a su que j'allais faire ce projet, il m'a dit, tu sais, je fais aussi un projet, j'ai un projet
Cinéma.
qui va se réaliser bientôt. Et il m'a dit, Jean-Marc, tu dois y aller à fond. Il doit plus y avoir de limite. C'est ta passion. Il faut que les gens comprennent que c'est ta passion après la musique. Alors je lui dis, des fois, c'est avant la musique. Il m'a
C'est
dit,
sur
bah
le même
oui.
niveau, enfin, on ne peut
Hein?
pas dire avant ou après,
Non, non,
c'est
c'est sur le même
de passion
niveau.
égale.
C'est un pain quotidien comme la littérature ou comme la peinture. Mais bon, c'est vrai que les films, on peut les voir et les à toute heure du jour et de la nuit. Surtout
Alors,
avec les merveilleux DVD maintenant 4K. Cas Blu-ray fabuleux, voilà.
vous parliez de l'amour aux trousses parce qu'il y a un absent sur votre disque, mais je ne sais pas si c'est pour des raisons d'organisation. C'est Bernard Herrmann, ce musicien dont le nom est tellement attaché à Hitchcock ou à Orson
Vous,
Welles.
eh bien oui,
Est-ce que vous êtes interrogé
mais non
à ce
seulement, c'est
propos?
que si vous venez à mon concert, vous l'entendrez.
Bien sûr que je viens le
Vous
concert le
l'entendrez.
19 avril. Vous avez un art de la transition,
Ah,
Jean-Marc
vous
Levert,
l'entendrez.
que je me disais, il faut absolument évoquer ce concert qui
Ah,
aura lieu le
bah.
19 avril à la salle
Ah,
Gaveau.
bien
Et
écoutez,
donc, il y a
mais
une surprise.
je travaille en ce moment. Mais le but, c'est en fait, bon, on a mis du Nino Rota. C'est pour un petit clin d'œil à la Dolce Volta. Mais toutes les autres œuvres,
Oui, c'est des œuvres
ce sont
classiques ou
des œuvres classiques.
romantiques.
C'est ce que je voulais absolument. Ce sont des grands films qui ont employé des grands chefs-d'œuvre de la musique. Voilà. C'est, je pense qu'il peut me différencier avec d'autres artistes qui ont fait des disques sur le cinéma.
Avec des thèmes, oui, empruntés à des compositeurs de cinéma. Alors justement, moi j'ai déjà discuté avec des compositeurs qui travaillent pour le cinéma. Est-ce que justement de prendre des grands chefs-d'œuvre, Mahler, Bach est beaucoup utilisé au cinéma, ou Mozart ou d'autres, est-ce que parfois il n'y a pas un risque justement que ce soit plus fort que l'image et que ça n'écrase pas, mais que la musique soit tellement puissante que...
Bruckner, pour moi, c'est Senso de Visconti.
Senso, oui.
C'est j'ai découvert, mais je n'ai pas honte de dire que j'ai découvert. Quand j'étais la 7e symphonie, j'avais 12 ans. Je l'ai découvert d'abord à la télévision. On venait d'avoir la télévision en couleur, comme on disait à l'époque.
Oui, Senso en noir et blanc, c'est...
Non,
dur.
Non, mais j'ai eu le grand choc. On appelait ça un véritable un ciné-opéra. Hein. Et puis, bon, Mort à Venise, que j'ai découvert à 11 ans, tout seul, au cinéma. Je me souviens très, très bien être allé à Alès, au Rex, et il y avait deux salles. Et la dame me regarde, j'avais l'air d'avoir 8 ans, elle me regarde et elle me dit, mais dis donc, tu veux voir ? Oui, oui, Mort à Venise. Mais c'est pas pour toi. Alors sa collègue qui tricotait à côté, je me souviens comme si c'était à tricoter, elle disait, écoute, il n'y a aucune interdiction, hein, tu peux le laisser rentrer. Hein. Et tu es sûr que tu ne veux pas voir le western qui est dans l'autre salle ? Tu es sûr ? Je lui dis, non, 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 pas du tout. Et alors, j'ai été subjugué. Évidemment, on est hypnotisé par ce film dès le début, par le générique qui est sous fond de lagune à l'aube et le passage du Vaporetto au moment du grand crescendo. Mais même chaque fois que je joue aujourd'hui, je me refais cette scène de ce Vaporetto qui arrive au loin et dans ce ciel rougeoyant, merveilleux de cette aurore un peu. Et puis, bon, j'étais fasciné par la musique. Je me suis dit, jamais j'ai entendu une aussi belle musique de ma vie. Et puis, de voir que cet homme se perd et meurt d'amour comme ça... je me suis dit comment ça peut exister, mais c'est bouleversant. Et je suis rentré chez moi, j'ai parlé à mes parents, je leur ai dit. Alors, je ne sais pas comment ils ont pris la chose, mais ils étaient interloqués. Je leur ai dit, dès que nous irons à Morzine, on allait à Morzine tous les étés dans une petite pension de famille, j'espère qu'on pourra y aller. Et en fait, le film Mort à Venise est passé l'été suivant, à Morzine, et j'ai emmené tout l'hôtel pour voir ce film. Il y avait ma mère et une dame, une jeune qui s'appelait Eliette Sapède, absolument, qui ont adoré le film. Mon père n'a rien dit, il restait assez. Et tous les autres ont détesté et même partaient. Moi, j'avais le cœur brisé, mais j'étais bouleversé. Et je sais que ma mère, après, a vu et revu le film une vingtaine, trentaine de fois. Elle l'adorait. Donc, c'est un souvenir très spécial, Mort à Venise. Pour moi.
Vous rendez hommage aussi dans ce disque, enfin dans le texte qui l'accompagne, dans l'interview qui l'accompagne, à un compositeur malheureusement pas assez mis en valeur à mon sens, qui a fait des musiques notamment pour Jacques Becker, Falbala et d'autres films. C'est Jean-Jacques Grunewald qui a fait la musique de La Vérité sur Bébé Donge.
Ah oui, quel grand, immense compositeur.
Ça m'a fait très plaisir que vous en parliez parce que je l'adore.
Alors,
mais
ça fait partie de la famille, alors pas mes parents, mais mes parents musicaux. Si je peux dire, Denise Rivière,
qui était votre professeur,
qui était ma maman de la musique, vraiment, qui m'a tout appris, qui venait d'une famille extraordinaire. Elle venait des Margaritis, de la famille de Gilles Margaritis, mais je crois qu'il y avait, je ne sais plus comment il s'appelait Pierre Margaritis, c'était les Thibault. C'était les Thibauds de Roger Martin enfin, Dugard. Ouais. La famille de Denise Rivière, c'est la copie. Roger Martin Dugard était très ami des Margaritis. S'est inspiré de tous les personnages de cette famille étrange qui était les Rivières. Et il a fait les Thibauds. Et le cousin de Denise, Maurice Auberger, était pendant la guerre et après guerre l'un des plus grands scénaristes du cinéma français. On lui doit Falbala, le film de Jacques Becker, génial film sur la haute couture avec Raymond Rouleau et Micheline Brel, sublimissime.
Gabriel Dorzia
effrayante, et Gabriel Dorzia qui est effrayante aussi dans La Vérité sur Bébé Donge.
Grande actrice.
Et alors, La Vérité sur Bébé Donge a été écrit aussi par Maurice Auberger. Et Denise Rivière me parlait toujours de La Vérité sur Bébé Donge. Il faut ne pas confondre
avec la vérité d'Henri-Jean Clouzot.
Ah oui.
On parle musique aussi, puisque le pauvre Samy Frey, pauvre entre guillemets dans le film, chef d'orchestre.
Oui, chef d'orchestre. Et puis il est assassiné.
Oui, bah, par Brigitte
Bardot. Alors,
il y a pire, mais quand même, c'est
désagréable. Oui, mais je peux vous ouvrir encore une petite parenthèse qui va vous faire sourire. Quand j'étais petit et quand j'apprenais le piano avec Denise, qui habitait Montfort-l'Amaury et qui avait une somptueuse demeure, et elle vivait là-bas avec le grand amour de sa vie, Marcel Ciampi. Ils vivaient là-bas l'été, juin, juillet, août, septembre. Et le reste du temps, la maison était louée à Brigitte Bardot.
Ah oui.
Et
qu'est-ce qu'on apprend comme chose?
Et Jacques Charrier. Et Jacques Charrier. Donc c'est absolument incroyable. Elle les a connus. Alors quand elle me parlait comme ça, moi je montais les yeux au ciel. Je me suis dit, elle connaît Brigitte Bardot, elle connaît Jacques Charrier, que j'avais découvert dans Les Tricheurs. Et surtout dans Babette s'en va en guerre.
Oui, alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Brigitte Bardot. Je suis pas sûr que Babette et j'aime beaucoup Francis Blanche. C'est un film qu'on a beaucoup de facilité à regarder aujourd'hui. C'est un peu
difficile, très difficile.
Toute passion
très,
pour les films
très difficile aujourd'hui.
Alors malheureusement, Jean-Marc Louzada,
voilà.
On pourrait rester des heures et des heures à évoquer cinéma, musique. Malheureusement, il faut achever cet entretien. On va l'achever par l'œuvre qui termine ce disque, qui est la Mazurka en la mineur opus 17 numéro 4 de Chopin, qui m'a rappelé. Vous avez enregistré deux fois les Mazurkas. Il y a eu un enregistrement, un des disques qui vous a fait connaître, enfin entre guillemets, au grand public de la musique classique, qui était votre enregistrement des Mazurkas chez Deutsche Grammophon, qui est un enregistrement très marquant.
Je vous remercie. Mais oui,
ça m'a fait penser à ça. Oui. Et là, c'est pour rendre hommage à Cri et Chuchotement.
Cri et Chuchotement que j'ai. Alors j'étais au conservatoire. Je venais d'entrer au conservatoire chez Dominique Merlet. Là, lui aussi m'a apporté beaucoup de choses, en plus de son bagage extraordinaire pianistique. Il nous disait d'aller voir des films aussi. Et je me souviens très très bien, une fois, il nous avait dit « Allez voir Maine Océan ».
C'est génial, de Jacques Rosier.
C'est
un film irrésistiblement drôle, en plus.
Mais film de génie. Et malheureusement, je ne pouvais pas aller ce jour-là. J'étais allé deux, trois jours après. Et c'était... c'est un choix exceptionnel. Et je me souviens aussi de Derzu Uzala, de Kurosawa. Oui. Et il m'avait dit, vous verrez, c'est le vent dans la plaine de Claude Debussy. Et c'est vrai qu'il y a une tempête de neige dans Derzu Uzala, qui est une merveille du 7e art. Voilà. Alors, pour revenir je sortais d'un cours de chez Dominique Merlet, je pense, j'allais toujours au cinéma en sortant des cours d'analyse ou de solfège ou de piano, et je m'en allais en bas de la rue de la rue de Rome. Il y avait un petit, ça s'appelait Saint-Lazare Pasquier. Les films étaient toujours en version française, mais j'allais sur les Champs-Élysées aussi. Il y avait un cinéma qui n'existe plus et qui présentait des films vieux d'il y a 4, 5 ans, 6 ans. Et là-bas, j'ai découvert Crise et chuchotement et Raphaël ou le débauché de Michel Deville. Et ce sont deux grands moments dans ma vie. Films désespérés, les deux.
Oui, bah ça on est habitué avec vous.
Voilà, mais l'emploi de la mazurka, qui est la recherche du temps passé qui ne reviendra plus, du bon temps, des beaux jours qui ne pourront plus jamais revenir. Et là, Bergman nous le fait sentir avec une couleur d'automne, un parc en automne et des femmes merveilleusement belles qui se baladent en blanc avec des ombrelles, alors que tout le film et se passe ou dans une chambre où l'une des
En
protagonistes
train de
est
mourir.
en train de mourir, et ou alors des souvenirs absolument terrifiants des autres membres de la famille.
Et ben
Voilà.
Jean-Marc Louis Ada, je rappelle la parution de ce disque au cinéma ce soir pour le label La Dolce Volta, hommage à vos deux grands amours artistiques que sont le cinéma et la musique. Et puis ce concert le 19 avril
Oui,
prochain
qui
à la
sera
salle
assez
Gaveau.
spécial, puisqu'il y aura, j'ai fait appel à un garçon
Julien Hanck.
absolument très doué, Julien Hanck, qui a fait des vidéos dans l'esprit de ce que j'aimais sur ces 11 ou 12 films qui seront illustrés par des musiques. Et moi, je parle aussi. Je vais un petit peu, il faut pas trop que je m'égare, mais que je parle un petit peu. Donc c'est un concert, ciné-concert, un petit peu spécial.
On a grande hâte. En attendant, il y a ce disque pour la Dolce Volta. En attendant ce concert, après cet entretien, Jean-Marc Louzada, moi j'ai envie d'aller revoir Oscar. Parce qu'après tous ces films
Vous
dramatiques
n'avez
qu'on
pas
ne
envie de
voit
revoir Manhattan
pas, j'ai
avec
envie de
la Rhapsodie in Blue?
revoir tout.
Oui.
Si, si, ça on n'a pas parlé, on
Moi,
a évoqué tellement de
je
choses.
peux juste dire un petit mot.
Ah
J'ai
bah
quand même
allez-y.
travaillé la Rhapsodie in
Mais
Blue
oui, c'est.
pour mon père.
Ah
Pour mon
oui,
père, parce
c'est
qu'il a
important.
il adorait cette Rhapsodie et que je ne lui ai jamais joué de son vivant. Je ne l'ai pas apprise. À l'époque, on n'apprenait pas ce genre de musique. On apprenait plutôt Petrushka
Oui,
ou des sonates de
Gershwin était
Prokofiev.
déconsidéré. Oui.
Voilà, alors que c'est de la musique aussi géniale. Et pendant le confinement, j'ai appris cette Rhapsody in Blue et j'ai pleuré en me disant, quand même, au lieu de lui jouer des œuvres de Schumann complexes, qui ne le touchaient peut-être pas trop, et j'aurais pu jouer ça, j'aurais pu travailler. Et c'est exactement aussi comme ma mère avec le concerto de l'empereur de Beethoven. Elle voulait, je ne l'avais pas travaillé, j'ai travaillé tous les autres concertos. Et lorsque je me suis mis à le travailler, ma mère perdait l'ouïe, elle n'entendait plus rien. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Donc peut-être ça m'a incité à faire cet enregistrement.
Ben c'est un bel hommage
Voilà.
à vos parents disparus. En tout cas, on l'écoute avec un
Merci.
immense bonheur et beaucoup d'émotion. Jean-Marc
Merci
Louzadet, il me reste à vous
Frédéric.
remercier.